Carnet de région.
Gare.
Aude.
Lozère.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bienvenue dans le carnet de région, toute l'actualité de la région Occitanie, vue par des radios associatives. Au sommaire, cette semaine, la Lozère fait sa comédie à Montpellier. À Alès, un parc de loisirs en intérieur a ouvert ses portes, c'est la salle Urban Park. On parlera économie circulaire en région Occitanie avec Samuel Mougin de la boulangerie solidaire Pain et Partage à Fabrègues. Et puis l'abattage de platanes centenaires dans la commune de Saint-Jean-de-Fosse a fait l'actualité. Enfin, on retrouvera un entretien avec Jean-Michel Perret, maire de Saint-Hilaire-de-Bretmas, à propos de la consultation référendaire sur sa commune qui a abouti au rejet du projet de golf défendu par Alès Aglo.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.
La Lozère fait sa comédie à Montpellier ce vendredi et ce samedi. Une grande action de promotion du département qui propose un stand de 500 mètres carrés sur l'esplanade à côté de la place de la comédie. Une grande campagne de promotion qui s'inscrit dans une démarche visant les touristes, mais aussi pour proposer aux visiteurs de venir s'installer dans le département le moins peuplé de France. Sophie Pantel, présidente du conseil départemental de la Lozère.
Le département travaille depuis plusieurs mois pour promouvoir le département, la Lozère, à l'extérieur de ses frontières. Donc ça s'est traduit par des campagnes TV, d'émissions ces derniers mois, mais aussi on est en train de préparer des campagnes d'affichage, et puis par un événement qui a vocation à tourner autour des 5 grandes villes, autour de 3 heures autour de la Lozère, puisque les touristes, ou en tout cas bon nombre de visiteurs qui viennent sur le département, sont issus de ces territoires, donc Toulouse, Montpellier, Lyon, Marseille et Clermont-Ferrand. Donc c'est vraiment une volonté d'aller mieux communiquer et plus communiquer à l'extérieur pour notre département. Plusieurs objectifs, plusieurs cibles hein, en termes de public. Donc on a évidemment la cible touristique. C'est la raison pour laquelle parmi les exposants, on va avoir des lieux touristiques du département. On va avoir des producteurs qui accueillent aussi des touristes. On va avoir des structures issues du domaine de la culture. Mais on vise aussi une population qui pourrait avoir envie de s'installer en Lozère. Et vous savez que un des enjeux importants sur ce département, c'est la question de la démographie, et donc c'est l'occasion aussi de faire passer les messages sur l'accueil de nouvelles populations et peut-être l'envie de s'installer dans notre beau département.
Alors sur ces deux jours, plusieurs animations sont proposées. Écoutez Valérie Cogolienne, chargée de l'événementiel au département de la Lozère.
Alors ce programme est assez riche, on l'a voulu varier également avec des manifestations, des partenaires qui vont nous aider dans cette animation sur les deux jours, avec notamment des conférence réalisée par l'entente Côte-Cévennes sur le patrimoine UNESCO. Nous aurons également le parc national des Cévennes qui viendra présenter les vautours de Lozère. Et puis on s'est également appuyé sur la Fédération départementale des foyers ruraux afin qu'ils organisent des séances de contes destinées au tout public et notamment à un jeune public, notamment le vendredi, puisque nous avons des enfants de deux centres de loisirs qui vont venir assister à deux séances de contes. Ces contes sont toujours en lien avec la Lozère, bien entendu. Et puis, il y a une soirée grillade le vendredi soir assurée par Parole Gabal. Nous avons les Rude Boy Crew qui font également une animation avec leur fantasmatique kermesse pendant deux jours également et qui iront sur la place de la Comédie. Nous avons une animation musicale le vendredi soir en même temps que la soirée Aligo. Il y a un groupe folklorique de Montpellier-Rhin qui va venir faire une petite animation également. Donc vous voyez que le programme est assez riche. On a également un ambassadeur qui, le samedi midi, qui est Pierre-Olivier Prouez, viendra faire une dégustation à partir des produits des exposants lozériens et préparer des recettes en direction des visiteurs.
Et le budget tourne à un peu plus de 50 000 euros pour cette manifestation. C'était un sujet de Ludovic Terrol de 48 FM. Cette semaine, s'est ouvert à Alès un parc de loisirs en intérieur, la salle Urban Park. Ce parc d'attractions de 1000 m2, installé dans une ancienne usine métallurgique, accueille pistes de skate, roller, trottinette, deux parcours d'acrobranche, un trampoline géant, dans un environnement graffé par des artistes de rue. Ce pari un peu fou fut rendu possible par la passion qui anime les trois fondateurs et dont le projet fut récompensé en 2015 au concours Alès Audace avec un montant de 25 000 euros décerné par la communauté d'agglo d'Alès. Professeur de skate et de roller, Charlie Ruckli, l'un des trois fondateurs d'Urban, revient sur la création de ce concept unique en France.
Il y a 2 ans, on a commencé à discuter de ce projet d'Urban Park qui était de créer un skatepark et un acrobranche dans un grand lieu indoor à Alès. Comme on est une région de soleil, on a peu d'espace de pratique indoor. Mais nous, on croit dans l'indoor dans la région parce que ça permet de créer un lieu où il y a une réelle ambiance. À côté, en parallèle des activités, en fait, on a essayé vraiment de créer un lieu complet dédié à nos pratiques avec toute la culture qui va à côté, c'est-à-dire que ça soit au niveau de la nourriture, de la musique, de l'iconographie, de la décoration. Donc en fait, on a vraiment essayé de créer un lieu chaleureux, plein d'hospitalité, ce qui n'est pas forcément le cas des skateparks en extérieur ou des acrobranches en extérieur.
Alors même que des adolescents prenaient connaissance de cette piste de skate, le professeur de roller Charlie Ruckley en détaillait le parcours.
Moi qui suis prof de skate et de roller depuis de nombreuses années, j'ai l'habitude d'initier les débutants à la pratique du freestyle. Donc j'ai conçu le skatepark pour qu'il soit très progressif, c'est-à-dire que les tout petits et les tout débutants, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, puissent s'amuser en sécurité, sans se faire peur et sans se faire mal, mais aussi que les experts et les aficionados trouvent aussi des rampes à leur taille. Donc en fait, le skatepark a été conçu sur des rampes qui vont de plus en plus haut et de plus en plus vite, et avec une zone spéciale pour les enfants très débutants où les rampes sont toutes basses et ils n'auront pas de risque ni de tomber trop fort, ni d'aller trop vite, ni d'être percuté par une personne plus chevronnée, plus douée.
Vous qui êtes justement un professionnel de la glisse, vous avez mis quelques difficultés pour les plus chevronnés dans ce parcours ?
Ah oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est assez facile de camoufler dans des tout petits modules, des modules très difficiles pour les experts où ils pourront s'amuser. Mais surtout, on a construit au fond du hangar, là-bas, derrière l'acrobranche, il y a une rampe de 12 mètres de large sur 1,80 m de haut, qui est vraiment le prototype de la rampe que tout le monde aime quand on est expert, qui est vraiment le beau module, qui est vraiment la belle rampe d'Urban Park. Donc les gens experts déjà ont un module d'experts au fond du skatepark, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais après, ils ont toutes sortes de possibilités aussi sur la partie débutant qui est plutôt devant.
À quelques jours des vacances de Toussaint, il est plus que probable que l'Urban Park d'Alès sera très fréquenté dans les prochaines semaines. Propos recueillis par Yves Defago de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Luc-Olivier Bossé de l'Église protestante Unie, accompagné de Stéphane Chennery, gérant de la Scorval, la société de conseil pour la valorisation des déchets, ont organisé à Cournanterral, près de Montpellier, le forum des initiatives solidaires les 15 et 16 octobre 2016. Le documentaire réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain, a lancé le forum qui a réuni 12 acteurs de l'économie solidaire de la région Occitanie. FM+ a rencontré ces gens de demain et nous vous proposons aujourd'hui d'écouter Samuel Mougin de la boulangerie solidaire Pain et Partage à Fabrègues.
Pain et Partage à Montpellier, en quoi ça consiste, Samuel Mougin ?
Alors, Pain et Partage Montpellier est une boulangerie solidaire qui se caractérise par différentes spécificités. La première est tout d'abord que nous sommes une entreprise d'insertion. Donc, il y a pour objectif d'accueillir des personnes qui sont au chômage et qui rencontrent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. La deuxième autre spécificité est que nous faisons du pain bio et uniquement du pain bio.
Les personnes que vous employez sont-elles des boulangers ?
Non, bien au contraire. Souvent, quand elles arrivent chez nous, elles ont malheureusement un dénominateur commun, c'est qu'elles sont sans emploi, au chômage, et qu'elles ont, pour différentes raisons personnelles ou professionnelles, elles sont sorties du secteur professionnel ou malheureusement ne sont jamais rentrées dans l'emploi, mais pour la plupart n'ont aucune qualification sur le métier de la boulangerie, voire n'ont jamais vu un pétrin, un sac de farine et une organisation de panification.
Ils viennent quand même chez vous par choix ?
Oui, par choix, parce qu'ils ont une réelle volonté de sortir de leur galère, de leur parcours de vie. Donc une volonté d'avoir une main tendue et de reprendre à la fois une activité professionnelle et de retrouver confiance en eux.
Sortent-ils avec un diplôme ?
Alors non, pas ce jour. Ils sont salariés pendant 2 ans au maximum. Mais aujourd'hui, on n'est pas organisme de formation. En tout cas, on n'a pas, dans un cadre légal, la possibilité de délivrer un diplôme. Donc, on va délivrer des certificats de compétences. Par contre, ça fait partie des projets sur du court terme de pouvoir travailler avec des organismes de formation, avec la profession, pour valider un parcours professionnalisant.
Depuis que vous êtes à Montpellier, combien de personnes avez-vous pu accueillir ?
Alors, l'activité est relativement récente à Montpellier, hein, puisque l'activité a démarré en mai 2015. Mais aujourd'hui, ce sont déjà 10 personnes qui ont bénéficié d'un contrat de travail.
Samène Mougin, votre parcours à vous ?
Alors, il est un peu atypique, mais souvent comme les parcours. Moi, j'ai une formation de chimiste à la base. Et j'ai découvert il y a un peu plus de 20 ans le secteur de l'insertion par l'activité économique dans le cadre d'un service civique. À l'époque, hein, j'ai opté plutôt du civil plutôt que du militaire. Je devais rester 10 mois dans une structure d'insertion. J'y suis resté 10 ans et finalement le virus m'a pris. Et de fil en aiguille, j'ai souhaité développer avec mon collègue Benjamin Borel des activités de boulangerie.
Cette activité pain et partage basée à Montpellier existe-t-elle ailleurs en France ?
Oui, alors l'origine de Pain et Partage se trouve à Marseille. Montpellier est la première duplication du modèle Pain et Partage. Et aujourd'hui, entre autres, ma mission est d'aller développer ailleurs en France ces boulangeries solidaires, notamment à Lyon, à Calais, à Bordeaux, à Dijon.
Le pain que vous fabriquez a-t-il une particularité ? Faites-vous des pains spéciaux ?
Alors oui, il est plein de particularités comme l'organisation. On se défend d'avoir une production bio, locale et solidaire, donc bio, avec une spécificité, c'est que les farines sont sans additifs et sans améliorants. C'est-à-dire qu'on a un processus de fabrication, de panification qui nous permet d'éviter toute trace de chimie. Donc on prend vraiment en compte des dimensions santé et nutrition dans le pain qu'on produit. Alors après, on a un pain qui est avec une gamme relativement serrée puisqu'on s'adresse à la restauration collective, mais on a aussi bien des petits pains, des baguettes, des pains de 400 grammes, des pains aux céréales, de la farine T65, T80. Voilà, on peut s'adapter finalement à la demande de nos clients et de nos consommateurs.
Vous vous adressez à la restauration collective, cela signifie qu'il n'y a pas de boulangerie sur rue ?
Oui, on n'a pas de vitrine. On est entre guillemets uniquement un laboratoire de production et on va pouvoir livrer un panel de clients qui va aussi bien d'associations caritatives à des entreprises et à des restaurants scolaires par exemple. Alors pour être concret, sur le secteur de Montpellier, on livre aussi bien la Croix-Rouge pour fournir du pain pour les petits déjeuners des SDF que des entreprises comme Dell ou les écoles de la ville de Montpellier.
Quels sont vos projets pour demain ? Vous nous avez parlé de vos projets à court terme et pour demain, pour l'avenir.
Alors c'est comment mieux travailler sur les parcours et sur les passerelles emploi des salariés en insertion ? Comment leur donner finalement une autonomie à retrouver une place de citoyen, d'homme et de salarié ? Donc plus de liens avec la profession, plus de liens avec les entreprises, voir comment accompagner les salariés à créer eux-mêmes leur propre activité.
Ici, c'est le pain qui est en question. Pourrait-il être reproduit pour une autre activité ?
Ah oui, bien sûr, on a plein de projets un peu fous dans la tête. Nous, ce qui fait force dans notre projet, c'est de retrouver des activités qui sont liées au terroir, qui sont liées à une histoire, qui trouvent du sens, qui sont innovants, mais finalement notre innovation n'est que refaire du pain comme on le faisait il y a 30 ou 40 ans. Donc de faire renaître ou revivre des métiers anciens, des traditions, du terroir, du territoire, oui, ce qu'on a fait autour de Pain et Partage, on pourrait très bien le refaire avec les oliviers par exemple. Voilà, on a plein d'idées qui nous traversent la tête.
Pain et Partage, une association à suivre. Merci.
C'était un sujet de Guylaine Dubois de Radio FM+.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Depuis le mois de juillet, un comité s'est monté à Saint-Jean-de-Fosse, le comité de sauvegarde des platanes. La raison, le maire de la commune souhaite couper 9 platanes centenaires sur l'avenue du Monument aux Morts, comme nous l'explique Jacques Nivard, membre du comité.
L'avenue du Monument, on va y mettre des trottoirs, ce qui est très bien. Refaire les réseaux, ce qui est très bien, et couper les platanes. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus un qui fera de l'ombre, qui respectera le biotope, les cigales, les oiseaux, les insectes, le parapluie, le parasoleil. Donc on sera obligé de mettre des climatiseurs en façade. C'est une absurdité, surtout quand on peut faire autrement, c'est-à-dire refaire cette voirie en conservant les arbres, comme le démontre et le prouve plein d'endroits dans notre région. Je prendrai pour exemple Montpellier, le cours Gambetta. Vous avez un parking qui fait 2,50 m de haut, si ce n'est plus. Vous avez des eaux pluviales, des bouches d'égouts qui sont sûrement plus importantes que celles de Saint-Jean-de-Fosse, des câblages, fibres optiques, le tramway au-dessus, des trottoirs, des trémies d'entrée d'escalier. Allez-y voir, messieurs, dames, allez-y voir, promenez-vous sur ce que Georges Frêche a dit, je ferai de Cour Gambetta à l'avenue les Champs-Élysées de Montpellier. Allez-y, les arbres sont toujours là, ils ne sont pas morts, et leurs racines, je ne sais pas où elles sont. Elles ne dépassent pas du parking, elles ne sont pas dans le toit du parking. Mais elles sont quelque part, ils ont réussi techniquement cette gageure de faire un monde moderne avec, bien sûr, ce qu'il faut pour les voitures, les câblages, les tuyaux, et de conserver le monde végétal et écologiste qui nous protège, les arbres. Tout de suite, nous avons mis en marche une pétition, et le maire avait dit à quelqu'un qui est venu nous trouver, parce que nous étions découragés de savoir qu'on allait couper ces platanes, ce monsieur est venu frapper à notre porte, Thierry Gaillac, qui est dans notre comité, il a dit on ne peut pas laisser faire ça. Donc on s'est mobilisé et on a créé une pétition qui sont des pages qui contiennent 40 signatures chacune, et nous avons obtenu à peu près 1000 signatures, 800 manuscrits que nous avons ici sous les yeux, le nom, le prénom, la signature, et nous en avons 200 sur change.org. La pétition sur change.org, elle porte le titre « Non au massacre des platanes ». Nous en avons 200. Le témoignage de Francis Allais, qui nous encourage, d'Alexandre Hollande, qui expose à l'Odève aujourd'hui sur les arbres et qui peint depuis 30 ans ici, son masé de peintre est entre la Gamasse et Saint-Jean-de-Fosse. Et José Beauvais, qui est sur le Larzac, qui a écrit en disant « Monsieur le maire, vous pouvez trouver d'autres solutions techniques que d'abattre ces platanes ». Voilà.
Le maire du village, Guy-Charles Aguilar, se défend d'être contre les arbres et explique ses raisons.
Bien, c'est un projet qui est ancien, c'est un problème dont a hérité la mairie actuelle, mais qui date des années 95, avec une voie traversante du village, une voie départementale, à forte circulation, et qui est particulièrement dangereuse du fait de ses accotements, d'un fossé qu'il aborde, de l'absence de trottoir. Et ça, c'est le premier aspect, donc nécessité de réaménager la voirie, avec une obligation de 5,50 m qui nous est faite par le département compte tenu du taux de véhicules quotidiens. Et puis, un souci aussi de mettre des trottoirs. Et là, en fonction des règles de personnes à mobilité réduite, mais aussi au quotidien, des mamans avec les poussettes, tous ceux que nous avons à transporter, que ce soit humain ou autre, eh bien, nous avons une obligation d'en mettre 70 de trottoirs. Et là, la mathématique est têtue. Lorsqu'on fait des comptes, la largeur compromet la présence des platanes. Le deuxième impératif qui est le nôtre, c'est aussi un impératif de sécurité, même s'il est plus diffus, c'est le passage des eaux. On a de plus en plus d'épisodes cévenols ou méditerranéens, et on se rend compte que cette avenue est une avenue qui draine beaucoup d'eau en amont, et nous allons mettre à profit la réfection de cette voirie et de ce paysage urbain, refaire les canalisations de pluviales à des dimensions suffisantes. Et là, nous avons une entreprise, un cabinet qui étudie ça depuis 2006 et qui nous fait une proposition pour un travail qui devrait normalement nous sécuriser au moins sur les décennales, comme ils disent, les centennales étant à la grâce de qui l'on veut. Voilà. Donc, une obligation de sécurité en matière d'écoulement des eaux, avec des tranchées conséquentes faisant passer eau pluviale, eau usée et eau potable, plus les réseaux secs. Nous allons anticiper tout passer et tout mettre enterré. Et puis une obligation de passage des piétons avec 1,70 m de trottoir, 5,50 m de voirie. Un des axes de ma municipalité, c'est justement de réintroduire le plus d'arbres possible dans notre environnement. On a en ce moment des mesures d'aménagement des entrées du village. On va mettre des espèces méditerranéennes parce qu'il faut aussi, il faut planter des arbres, mais il faut aussi que cela ne soit pas trop gourmand en eau. Donc nous sommes en train de travailler, nous redémarrons un PLU dans lequel on va vraiment mettre l'accent sur le maintien des bois classés et sur les corridors nécessaires au maintien des espèces animales sur le village. Non, nous ne sommes vraiment pas une municipalité qui a envie de rendre tout en béton sur son périmètre. On est très attaché aux arbres, Mais je vais même plus loin. À titre personnel, je suis très attaché à ces arbres. Et personne ne pourra les voir disparaître sans un pincement au cœur. Ce serait illusoire. Mais la responsabilité du maire, du conseil municipal et a fortiori du maire, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'accident sur cette voie. Que s'il y en a un épisode cévenol fort, je ne puisse pas me dire... S'il y avait eu un tuyau de 100 à la place d'un tuyau de 50, on aurait peut-être évité tel drame en aval parce que cette maison a été abîmée par le passage des eaux et que telle personne a eu tel accident. Enfin, on l'a vu dans les Alpes-Maritimes, dans des endroits où on s'y attendait pas. On l'a vu un peu partout. La sécurité de l'eau, personnellement, me préoccupe presque autant que celle de la voirie. Mais les deux combinés font que... Avec beaucoup de respect pour ces arbres et pour ceux qui les défendent, je dirais que les arbres dans la balance ne peuvent pas avoir le poids de retarder ce dossier.
Les platanes seront abattues dans les prochains jours avant le commencement du chantier qui doit débuter durant le mois de novembre.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Cela fait 12 ans déjà que l'association Saint-Hilaire Durable se bat pour refuser un projet de golf dans l'agglomération d'Alès. Au départ porté par la municipalité de Saint-Hilaire-de-Bretmas, le projet est repris en 2014 par Alès Aglo après un changement de majorité municipale. Élu, notamment sur l'engagement de ne pas réaliser le golf, le maire Jean-Michel Perret nous explique pourquoi il s'oppose.
Ce projet remonte à 2004. Il a été initié à l'origine par la commune de Saint-Hilaire-de-Bretmas, les élus à l'époque. Et il a été lancé sans aucune concertation déjà à l'époque et par la suite transféré à l'Aglo qui en a repris l'intégralité. Et ça concernait, dans ces années-là, un tiers du territoire de la commune. Ça comportait à l'époque une partie golfique de 18 trous plus une partie à 9 trous. Ça comprenait une zone d'activité économique ainsi que un hameau golfique et une extension urbaine du village existant. Ma démarche a été effectivement de dire un projet, quel qu'il soit, doit être débattu avec la population concernée, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. Il n'y avait eu qu'une seule réunion officielle d'information qui s'était tenue un jeudi à 11h du matin, qui plus est dans un bâtiment sur la commune d'Alès. Donc on ne pouvait pas considérer légitimement que c'était une réunion publique destinée aux Saint-Hilairois. Donc suite à notre élection, on a souhaité effectivement rebattre les cartes et remettre le projet devant les Saint-Hilairois. Entre-temps, il y avait une enquête publique qui avait mobilisé énormément de monde, qui s'était conclue par un avis négatif des commissaires enquêteurs, notamment au motif que le projet initial favorisait des intérêts privés avant de favoriser l'intérêt collectif, et donc l'utilité publique n'était pas démontrée. Donc il me paraissait important, compte tenu de l'obstination de la communauté d'agglomération à maintenir ce projet coûte que coûte, eh bien, de proposer aux Saint-Hilairois de pouvoir s'exprimer à travers un référendum consultatif et de donner enfin leur avis vis-à-vis de ce projet qui, entre-temps, avait été remanié, à savoir que la partie golfique avait été diminuée et la partie économique était supprimée et avait été remplacée par un immense centre équestre comprenant de l'hébergement, etc.
Les Saint-Hilairois étaient appelés à répondre sur le projet de golf par les urnes à l'occasion du référendum consultatif organisé par la municipalité dimanche 16 octobre. Avec 47% de participation, ils ont répondu non par 60% des voix. Jean-Michel Perret.
J'entends de toutes parts, et on va dire de toute tendance politique, les Saint-Hilairois s'exprimaient défavorablement par rapport à ce projet. Était imposé par l'ancienne équipe municipale et après par l'Aglo.
Et est-ce que ça veut dire que effectivement le projet de golf n'aura pas lieu ?
Max Roustan s'est engagé publiquement, donc elle a arrêté le projet.
Max Roustan, le président d'Alès Agglomération.
D'Alès Agglomération, tout à fait. Hein, il s'est engagé publiquement au conseil d'agglomération à respecter l'issue du référendum consultatif. Donc, j'ose espérer, mais je pense qu'effectivement, il respectera sa parole.
Les terrains restent donc la propriété de l'agglomération. Est-ce que vous n'avez pas la crainte, Jean-Michel Perret, de voir surgir un autre projet tout aussi inutile pour votre commune?
Les terrains, qu'ils appartiennent à l'agglomération ou à n'importe quel particulier, se doivent de respecter les règles d'urbanisme. Les règles d'urbanisme sont fixées par la commune et non pas par une autre collectivité territoriale, quelle qu'elle soit. En l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, la zone sur laquelle la communauté d'agglomération a acquis des terrains est en zone agricole. Et dans le cadre notamment d'ailleurs de notre plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, il n'y a aucune raison que cela change.
Je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Escapade. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui manquerait sur ce sujet.
Un message quand même, c'est de remercier l'ensemble des habitants de Saint-Hilaire, qu'ils soient pour ou contre ce projet d'ailleurs. C'est extraordinaire de voir qu'il y ait autant de monde qui se soit déplacé, qui se soit exprimé. Et ça, je trouve que s'il y a bien une victoire dimanche soir, c'est la victoire de la démocratie.
Alès Agglo reste pour le moment silencieuse à propos du devenir des terrains dont elle est encore propriétaire. C'était un entretien réalisé par Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade. Merci d'avoir suivi ce carnet de région, toute l'actualité en région Occitanie, vue par différentes radios associatives de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. C'était Nicolas Rousseau de Radio Aviva à la réalisation de ce carnet de région. Très belle journée à l'écoute de votre radio préférée.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.